Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse loisir. Des conseils pour votre congé de fin de semaine, culture, cuisine, jardinage, déco, activité physique pour passer le meilleur week-end possible. Le journaliste Xavier Le Herpeur, la romancière Marianne Lévy et toute la bande du vendredi vous conseilleront des séries réjouissantes à regarder bien au chaud. Nous recevrons également les sœurs Camille et Julie Berthollet, fans de séries, qui réjouiront nos oreilles en jouant au violon et violoncelle, le générique de Game of Thrones. Emma Peel et John Steed, alias Christy Lapelle-Edouelle et Julien Bisson, vous proposeront une courte sélection de livres. Notre chef Grégory Cohen vous fera fondre de plaisir avec un classique revu à sa manière. J'ai pas dit revisité.
Oui, hein. C'est mieux. Hein
bon. Bonjour Aïda Ndiaye.
Bonjour.
Vous remplacez au pied levé notre camarade Thibaut de Saint-Maurice, père d'un petit Joseph. Depuis hier soir, nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. Alors, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler précisément des prénoms.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié.
Oui, alors déjà, moi, je suis pas Emma Peel. Enfin, c'est pas grave. Merci. Oui, je suis vexée.
Vous êtes peurdée.
Peurdée, c'est pas mal. Elle a 30 cm de plus que moi, facile. Mon personnage, mon ami de fiction, c'est un homme qui réussit presque à être gentil dans un monde où tout le monde est vraiment méchant.
Et pas d'inquiétude, vous retrouverez la chronique sexe de Maya Mazorette la semaine prochaine. Je sais que Xavier Le Herpeur est déjà très 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 déçu.
C'était la seule raison pour laquelle j'avais accepté de venir.
Merci.
C'est charmant,
merci.
Xavier.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, à la une cette semaine.
On se demande qui veut réécrire l'histoire. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais non, on en parle un petit peu ces derniers temps.
Dans un instant, voyage immobile avec des chroniques de voyages vagabondes.
Oui, on avec le récit Partir léger de Pierre Ducrozet qui va nous rappeler le plaisir de voyager au moment où les frontières commencent à rouvrir.
Bonjour Christy Lapelle-Edouelle.
Bonjour Ali.
Co-autrice de la version poche de la revue Grand Bien vous fasse, La puissance des liens, disponible chez Pocket. Petit avant-goût de vos choix littéraires.
Eh bien, Anthony Palou, journaliste au Figaro. Dans ma rue, il y avait 3 boutiques et prix Renaudot Essai. On a beaucoup parlé de tous les prix littéraires, mais celui-là un peu moins. Alors, je vais essayer de rattraper la chose.
Bonjour Xavier Le... Xavier Le Herpeur. Pardonnez-moi,
je vais essayer. Comme vous voulez, je peux partir, j'ai du boulot. Alors, n'hésitez pas à foutre dehors dès le début de l'émission. Non, parce ça ne me dérange pas.
Je regardais Grégory Cohen en même temps.
Xavier Le Herpeur. Plus beau que moi, je vous comprends. Ça, je peux pas vous en vouloir. Allez-y, faites votre émission.
Vous êtes très bon en kaki en plus. Producteur de l'indispensable Une heure en série le samedi à 20h et en podcast. Pilier du Masque et la Plume de l'ami Jérôme Garcin. Vous nous proposez tout à l'heure un médecé de série très hétéroclite. Hein. C'est très hétéroclite,
très britannique et très spécial pour la couette. Vous comprendrez tout à l'heure.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du restaurant éphémère Temporalité à Paris entre le 20 novembre et le 11 décembre. Quel est le classique revu et corrigé par vos soins à alors, servir ce week-end?
Alors c'est un mash-up, c'est en fait la recette de ma grand-mère qui c'était en fait les endives au citron et la recette de ma mère qui était les endives au jambon, donc j'ai fait un espèce de mix des deux.
Tiens Grégory, à la suite de notre émission consacrée hier à la personnalité d'Elisabeth II, Julie nous a écrit et a eu envie de confectionner des scones ce week-end. Elle vous demande comment les réussir, quels sont vos trucs et astuces de Xavier Le Herpeur salive bave déjà.
Ouais, alors en fait sur les trucs et astuces déjà vous êtes meilleur que moi parce que vous êtes je crois le roi des scones.
Je confirme.
Alors, je pense que vous pourrez donner les vôtres, ce sera bien. Moi les miens en fait c'est très simple, c'est une recette avec donc les scones, c'est de la farine, de la levure chimique, du moscovado et de la vanille. Je mets tout
moscovado,
ce qui va
c'est un sucre.
C'est un sucre qui n'a pas été raffiné en fait. Je vais mettre tout ce qui va être élément sec ensemble et ensuite je vais sabler avec mes doigts avant de battre.
Sabler le beurre,
sabler la farine, donc ça va donner un côté sable. Et ensuite, je vais mettre les éléments liquides et je vais les mélanger pour obtenir mes scones. C'est simple.
Mmh. Et un vous mélange, dites, c'est, un c'est mélange quoi, les œufs.
Ah voilà.
Non, mais ce qui est bien, c'est de mélanger avec un couteau. pour pas, il faut pas trop la travailler la pâte, et vous la travaillez avec un couteau, et puis voilà, et puis vous façonnez vos scones, et puis vous mettez un petit peu de lait d'œuf sur pour dorer.
Pour dorer,
puis,
exactement. Voilà, c'est pour ça que en fait je voulais qu'Ali nous donne sa recette de scones, parce qu'en fait il la garde pour lui, c'est comme les champignons. Vous savez,
c'est Grégory qui va présenter l'émission, en revanche.
Et puis vous pouvez rajouter des raisins secs, évidemment. Bon voilà, on a répondu à Julie.
Peut-être que vous faites le meilleur pâtissier sur M6, parce que là il est temps. On vous soutiendra 2 semaines.
On vous coachera un peu. Stila Pelledouelle, alors votre coup de cœur littéraire de la semaine, c'est « Dans ma rue, il y avait 3 boutiques » d'Anthony Palou, publié aux Presses de la Cité. Anthony Palou, l'une des plus fines plumes du Figaro. « Dans ma rue, il y avait 3 boutiques » qui vient de remporter le prix Renaudot de l'essai.
Et oui, c'est une gourmandise puisqu'on est dans la cuisine. Moi, je continue parce que là, c'est vraiment le cas. Alors, Anthony Palou, vous l'avez dit, il est journaliste. Il est né à Quimper et c'est vraiment pas le genre de type à pousser un caddie dans un hypermarché. Il a même une sainte horreur de ça. Il le dit dans son livre. Il est fils et petit-fils de marchands de primeurs, ce qui explique une certaine, comment dire, une certaine... tendresse pour tout ce qui est de boutique de bouche, mais pas seulement. Et il a écrit donc une espèce, comment dire, son démiscellanée. C'est des petites anecdotes, des souvenirs, des réflexions sur les boutiques qui disparaissent, vous le savez, au fur et à mesure que les grandes surfaces prennent de l'ampleur. Qui recommence, semble-t-il, dans certains coins à réapparaître avec de nouveaux commerçants. Mais là, c'est vraiment une ode à la gloire des petits commerces. Alors, il parle du pharmacien de son coin, ça m'a beaucoup fait rire, sur les commerces de bouche, bien entendu. Et puis, il parle aussi des produits. Alors, les produits de la mer, les tomates, le fromage, les bananes et même la vache qui rit. Enfin, bref, on a vraiment le sentiment qu'Anthony Palou est non seulement une fine plume, mais aussi une fine gueule. Et... tout son livre est écrit avec une plume tellement drôle, mais tellement drôle, poétique, rigolote. Et alors, on peut dire c'est nostalgique, mais en fait, oui, ça l'est un peu, mais pas trop. C'est juste la pointe de nostalgie qu'il faut. Je voudrais juste vous lire un petit truc sur les papeteries, parce que voilà, les papeteries sont des commerces qui ont tendance à disparaître dans les centres-villes. On a des grandes surfaces en effet, mais le délice d'aller chercher du papier qui sent bon, de l'encre de toutes les couleurs, des plumes, etc., ça devient de plus en plus difficile. Et voilà ce qu'il dit. À la papeterie, tenue par Madame Le Goff, donc à Quimper, hein, je vous le rappelle, il y avait surtout ce divin parfum de colle. Alors là, je vous vois déjà frémir, parce que quand on parle de parfum de colle, ça dit quelque chose à tout le monde.
Parfum d'amande.
Ouais. Tous ces petits pots que j'aimais tant, dans lesquels, malgré le regard sévère de la mère Le Goff, je trempais mon index. Il y avait aussi, comme le temps passe, comme il passe, oui, ces stylos Parker ou Waterman à pompe que l'on plongeait dans un encrier. Muni d'un stylo, j'aspirais ce qui deviendrait alors plus ou moins ma vocation. Voilà. Et tout le livre est comme ça, avec des notations absolument charmantes, très drôles. Bref, c'est un délice. En plus, comme ce sont des notations, vous pouvez picorer dedans comme vous voulez. Je vous recommande quand même de lire toute la première partie intégralement, qui sont ces souvenirs de Quimper, des petits commerces de Quimper. Voilà, c'est un délice pour le week-end, et puis même après, si vous voulez. Et le prix Renaudot de l'essai, alors ce que je trouve remarquable, c'est que le prix de l'essai, en fait, c'est pas vraiment un essai. Donc, je pense qu'ils ont voulu signifier à quel point le livre de Palou était délicieux, et ils ont bien fait.
J'ai commencé à le feuilleter et c'est vrai que c'est un délice. Dans ma rue, il y avait 3 boutiques d'Anthony Palou et c'est publié aux Presses de la Cité. Second coup de cœur, Christine Pelledouelle, pour Les Matriarches de Nadia Ferrouki, et c'est présenté par notre consoeur Laure Adler, un ouvrage consacré aux dernières sociétés de femmes autour du monde, et c'est publié chez Albin Michel.
Et c'est un beau livre, fort format à l'italienne, avec des photos absolument magnifiques sur ces sociétés matriarcales donc à travers le monde. Je vous rassure, n'ayez pas peur, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont en effet de plus en plus rares. Mais ce que Nadia Ferrucchi a de formidable, c'est qu'elle a passé 10 ans à travers le monde à photographier ces communautés féminines. Et alors, donc, à travers le monde, depuis la Chine jusqu'en Estonie, et oui, jusqu'en Estonie, il y a même une partie sur une île française, imaginez-vous, où les femmes, l'hiver, restaient seules pendant que les maris étaient partis à la pêche. C'est remarquable, de bout en bout, c'est très très beau. Et puis, la préface de notre amie et voisine du 6e étage, Laure Adler, est remarquable parce qu'elle permet de remettre en perspective le travail de Nadia Ferrucchi et les raisons pour lesquelles ces communautés féminines sont si rares et surtout pour les raisons pour lesquelles finalement elles feraient peur. Or, il est temps, il est grand temps de les réhabiliter et de les regarder de plus près. Voilà.
Les matriarches de Nadia Ferrucchi, c'est un livre d'espoir qui fait écho au terrible reportage que j'ai vu hier soir de Liseron Boudoul, diffusé dans le journal de 20h de TF1, la grande reporter qui a montré la vente de petites filles en Afghanistan par des familles dans la misère absolue. Coup de chapeau à Liseron Boudoul pour son travail remarquable. Et donc, lisez donc Les Matriarches, c'est publié chez Albin Michel. Julien Bisson, Voyage immobile avec Partir léger de Pierre Ducrozet. En poche, chez Babel, un recueil de chroniques de voyages vagabondes.
Oui, c'est un petit ouvrage qui était paru l'an dernier, mais qu'il faut relire aujourd'hui, parce qu'il retrace son voyage sac au dos à travers l'Asie, juste avant que celle-ci ne nous soit interdite. Le voyage se termine au Japon, en avril 2020, en pleine explosion du Covid. Alors c'est un titre dont le titre Partir léger nous invite justement à cette légèreté, mais rien n'y est superflu, parce que au fil de ces pérégrinations qui vont nous emmener à travers le Népal, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le livre nous raconte les visages multiples de cette planète en surchauffe au fur et à mesure que la pandémie referme peu à peu son étau sur les voyageurs. Le voyage se poursuit malgré tout cela, mais l'air se raréfie, la menace gronde et c'est toute la philosophie du voyage qui va se trouver interrogée au fur et à mesure de ces chroniques, en même temps que l'urgence de regarder un monde qui se refuse à nous peu à peu. On a tous été marqués par la fermeture des frontières et l'interdiction progressive du voyage. Et je trouve que relire ce livre aujourd'hui, au moment où les frontières commencent à se réouvrir, la Thaïlande a rouvert ses frontières, les États-Unis il y a quelques jours également, c'est justement le moment où il faut le lire, parce que c'est un guide impressionniste qui donne envie de rouvrir les pages de son passeport, de partir à nouveau, partir lourd d'un pass sanitaire ou d'un carnet de vaccination, mais en tout cas léger de nos appréhensions et de nos a priori. C'est surtout un livre qui nous réapprend à voir, qui nous réapprend à voyager, qui nous réapprend à savourer le bonheur qu'il peut y avoir à côtoyer un monde qui, jusque-là, pendant un an et demi, on avait perdu l'habitude que ce monde nous soit interdit. Et retrouver ces pages-là, aujourd'hui, qui ont été écrites il y a un an et demi, c'est justement réapprendre à voir ce que ça peut être le plaisir de voyager. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre, mais qui mérite aujourd'hui d'être relu.
Partir léger de Pierre Ducrozet en poche chez Babel. Vous avez envie de partir léger où ça, mon cher Xavier Le Herpeur ?
Ah bah l'Asie, moi, qui me manque terriblement. C'est vraiment ma terre d'accueil, je trouve que, à tout point de vue. Ou alors les pays qui sont effectivement vantés dans le livre dont vous venez de parler, les matriarches, et se dire qu'effectivement, il y a des pays peut-être plus intelligents que le nôtre.
Allez, vous retrouverez évidemment tous les conseils livres sur l'appli et sur le site France Inter à la page Grand Main vous fasse. Il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine ?
Alors, cher Ali, chères auditrices et auditeurs, chers contribuables qui n'ont que la fiction pour toute évasion, je vais vous parler des ultra-riches, des super blindés, de ce 1% de la planète qui forme une nouvelle monarchie financière, donc de la série la plus cruelle, drôle et intelligente de ces dernières années. Succession. La série de Jesse Armstrong ou l'histoire tragicomique de Logan Roy, PDG vieillissant de l'empire médiatique et familial Royco, qui doit nommer son successeur mais ne le veut pas vraiment. Alors qui pour le remplacer parmi ses 4 enfants ? Connor, un peu débile ? Kendall, compétent mais fragile ? Shiv, la seule fille et soi-disant la chouchoute ? ou Romane, malin et pervers comme tout. Alors, il y a des références obligatoires dorénavant quand on parle de succession. Alors, je vous les livre en vrac, à la manière d'un inventaire à la Prévert. Enfin, si Prévert était coté au CAC 40. Rupert Murdoch, Donald Trump, les Atrides au grand complet, Caligula, pourquoi pas, et surtout William Shakespeare, accompagné de son roi Lear. Et aussi peut-être Thomas Vinterberg, car la plupart des scènes de repas chez les Logan peuvent faire passer Festen pour un pique-nique chez les scouts. Mais je sens Ali qui s'impatiente.
Et oui, chez les Roy, vous avez donc un ami?
Oui, Ali, justement, il faut un peu de temps pour le détecter dans ce nid de vipère et ensuite l'aimer tendrement. C'est Kendall. Sa manière de se donner de la contenance, de se déguiser en loup alors qu'il a la sensibilité d'un agneau. Héritier désigné, et puis non, et puis si, et puis non, et puis si, il devient de plus en plus attachant au fur et à mesure des humiliations que lui fait subir son monstre de père. Kendall est le seul de la famille pour lequel on a peur. Pas assez cynique dans ce microcosme de brutes capitalistes, il n'arrive pas à garder longtemps le masque du tueur.
Il y a à peine 3 ans de ça, t'étais encore chez les fous.
En désintox. Oui, papa, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je suis sur la bonne voie.
J'en suis ravi. Je me demande juste si tu peux te montrer dur, Kendall.
Dur? Non, mais tu plaisantes. J'ai passé une putain d'année à Shanghai.
J'ai entendu dire que le gars du site internet t'a parlé comme une merde et que t'as pas répliqué.
Non, c'est pas un site. Et je me suis montré très professionnel.
Tu te serais montré faible. T'as évité le conflit.
C'était pas le concours de celui qui a la plus grosse dans le pantalon, ok?
Non, mais dis pas que tu vas chialer. Kendall, tu chiales là ou je rêve?
Bah oui, Kendall est l'homme qui pleure. Dans un monde où il faut avoir la plus longue, et même une plus longue que papa. Kendall ferait n'importe quoi pour être aimé par son père, pour provoquer son admiration. Et on a mal pour lui chaque fois qu'il croit, à tort, à un compliment fourbe ou une fausse promesse. Succession a beau se dérouler comme une guerre de tranchées au pays des yachts de 10 mètres, des hélicoptères privés et des lignes directes avec le président, on pense à ces moments qu'on a vécu ou dont on a été témoin. Un petit garçon montre son dessin à son père, les yeux remplis d'espoir. Et en face, rien. Ou alors une phrase qui tombe comme un couperet. « Eh bien, j'espère que tu es meilleur en judo qu'en dessin. » Pourquoi ne dit-on pas au petit garçon qu'il faut être un peu bêta pour attendre ainsi la bénédiction des vieux mâles alpha? À la fin de la deuxième saison, Kendall commet un acte inimaginable qui, paradoxalement, fait naître sur les lèvres de son pater un imperceptible sourire de respect. Un acte moral. Dans la saison 3, en cours, il parle même d'avenir, d'écologie, de bien commun. Je ne sais pas si mon ami Kendall va flancher. Mais je sais qu'à nouveau, j'aurai envie de le prendre dans mes bras pour le consoler d'être incapable de tuer le père et le patriarcat, une bonne fois.
Et Guillemette Odissino, je partage avec vous votre amitié pour ce superbe personnage de Kendall. Succession, à mon humble avis, la plus grande série du moment à voir sur OCS. Xavier Huerpeur, vous partagez notre enthousiasme?
Je partage complètement votre enthousiasme. Bien sûr, si la série avait existé au moment où nous avions lancé Une Heure en Série, on en aurait parlé, mais je préfère ne pas aborder en débat les deuxième ou troisième saisons pour éviter les allers-retours un tout petit peu entre nous. Mais en revanche, un excellent plateau télé, un excellent conseil. Je me permettrai moi de conseiller également la version britannique un peu écrasée par le succès justement de Succession, Father Mother Son avec Richard Gere.
Absolument.
Qui est d'une perfidie, d'une méchanceté aussi tout à fait salutaire.
Dans un instant, un plateau de série assez inactuel à déguster ce week-end, seul à deux ou en famille. Enfin, certaines pour famille, Xavier Huerpeur, tout au long de la semaine. L'émission a été préparée par Alexia Rivière, Camille Poux-Jalagui, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, Clément Vuillet et Adèle Caglar. Et on écoute le groupe Phoenix.
Sentimental. Testamania. Think less but see it grow. Like a riot, oh. Not easily offended. Not hard to let it go. From a mess to the masses.
Interpréter l'Histomania.
Pas moi, j'ai regardé Tiger King en premier, dès que c'est sorti.
Ah ouais, génial.
Grand bien vous fasse.
Attends, on m'appelle. C'est Netflix, ils veulent t'envoyer une médaille. Quelle couleur tu veux ? Bleu, rouge ?
Sur France Inter.
10h29, grand bien vous fasse avec un plateau de séries réconfortantes pour ce week-end avec Maître Xavier Le Herpeur, producteur d'une heure en série. Nous accueillons Marianne Lévy. Bonjour Marianne Lévy.
Bonjour Ali, bonjour à tous et bonjour au boss.
Romancière et scénariste, vous avez publié Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne et vous intervenez régulièrement dans une heure en série. Bonjour Camille et Julie Berthollet, bienvenue.
Bonjour.
Duo exceptionnel de violonistes et de violoncellistes. Camille Berthollet, vous avez remporté le concours prodige ?
Eh oui.
En 2014.
Ah ouais, tu m'avais pas dit.
En 2014.
Je regardais pas la télé à ce moment-là.
Vous êtes fan de séries et vous proposez avec l'Orchestre d'Île-de-France l'album Série. Vous reprenez des bandes originales de films et des génériques de séries comme Mission Impossible, La Casa des Papel, The Crown, The Leftovers, que j'adore, 10%, Les Simpsons. Et en fin d'émission, vous interpréterez en direct le thème de Game of Thrones. Quel rapport entretenez-vous avec les séries ? Alors, elles ont bien sûr des vertus divertissantes, mais également pour vous, réconfortante, réflexive, thérapeutique.
Ah oui, je pense qu'on peut carrément dire ça. Bon, déjà, on y passe peut-être un quart de notre temps, donc la moitié de mes nuits, ce qui fait déjà pas mal. Alors, bien sûr,
proche, oui.
Oui. Après, pendant le confinement, en théorie, on a beaucoup composé, écrit. Fait, ouais. En vrai, on a regardé des séries. Ouais. Et du coup, on s'est envoyé. Ah, ça, t'as regardé ? Ouais, ça, j'ai regardé. Ça, t'as lu ? Non, je lis plus. Je regarde que des séries. Et puis finalement, on est tombé amoureuse de certains génériques. Le tout premier, c'était Leftovers. Pareil,
on est d'accord.
Un gros coup de cœur. Et là, je suis tombée amoureuse. Et on a fait. Faut qu'on en fasse quelque chose, hein. Et puis voilà, ça a donné l'album.
Est-ce qu'il y a des séries qui ont changé votre vie ou qui vous ont aidé à certains moments de votre existence ?
Oui, il y en a qui réchauffent le cœur en hiver, il y en a qui font peur, bah celle-là, elle les
regarde. Voilà, celle-là, je les regarde, je les laisse à Julie, il y en a qui font rire comme 10%.
Ça, et si c'est un peu romantique, Camille, ça lui fait du bien, elle est contente.
Par exemple.
Ah bah Bridgerton, Downton Abbey, tout ce qui est comme ça, j'aime beaucoup.
Bridgerton, c'est tellement bien.
Ouais, un petit chocolat chaud sous la couette, là on est bien.
Xavier Lerper, pendant le premier confinement, vous avez joué un rôle important dans cette émission en conseillant une série de tous les jours. Comment expliquez-vous ce refuge que constituent les séries encore et toujours?
Vous avez 2 heures?
Allez,
l'extension de l'émission.
Oui, et Thibaut n'est pas là, donc.
C'est toujours très compliqué. Je pense qu'elles ont apporté. D'abord, il y a un âge d'or. Elles sont extrêmement bien produites, faites, réalisées, écrites. Beaucoup de femmes, généralement, sont à l'origine des meilleures séries du moment aussi. Beaucoup plus inclusives qu'à une époque. Il y a une vraie réflexion et ambition, encore une fois, sur la mise en scène, sur la manière dont elles sont racontées. C'est un support extraordinaire qui nous vient de l'enfance, quand maman fermait le livre et qu'elle nous disait, voilà, demain, je te raconterai la suite. Et sur demain, elle semblait inatteignable. Et puis, et on avait encore la suite. Alors aujourd'hui, on peut les binge-watcher, les regarder en une seule fois.
Ou au contraire, demain, c'est 5 minutes après. Quoi.
Voilà, les disséquer, on ne tient pas longtemps. Et puis, effectivement, je pense que par rapport au cinéma que j'aime, vous le savez, d'amour, on vieillit, on continue un bout de chemin avec ces personnages. On s'y attache, on les voit se complexifier, on les voit gagner en opacité, gagner en étoffe. Donc voilà. Et oui, la littérature avait inventé le feuilleton, la série le prorogue de manière brillante. Et c'est un rendez-vous à nul autre, pareil, sur la couette, sur le canapé, dans le métro, sur son smartphone, même si je n'aime pas beaucoup ça. Ouais. Mais tant mieux, ça prouve qu'effectivement, il y a une addiction et qu'elle est bénéfique.
Guillemette Odissino.
Bah oui, vieillir avec les personnages et avancer avec eux, c'est un truc fou. Ce qui fait le succès au cinéma de certaines sagas, évidemment, Harry Potter, mais parce qu'on voit grandir les personnages au fur et à mesure, donc à la manière d'une série. Mais c'est vrai que le feuilleton, et puis c'est aussi, la série permet une chose que le cinéma, hélas, de temps en temps, ne peut plus se permettre. C'est de faire des boucles, c'est de revenir sur des sujets, c'est de perdre du temps. En fait, on peut perdre du temps puisque on ces personnages-là, on a envie d'être avec eux, de continuer à vivre avec eux. Donc on peut perdre du temps avec eux alors qu'au cinéma, hélas, le temps c'est de l'argent.
Alors, dans le plateau télé pour ce week-end, Xavier Lerper, vous avez choisi Doctor Who, série kitsch, pardon, mythique, pour de nombreux, pour nombreuses personnes dont je ne fais pas partie. Une série british née en 1963, l'année de votre naissance. Par quel bout prendre cette série quand on ne l'a jamais vue?
Ah d'accord, il y a des années de naissance avec.
Ah, il y a tout là. Il va même fêter ses 58 ans dans peu de temps puisqu'il est arrivé le 24 novembre 1953 à la télévision britannique. C'était une série d'abord pédagogique d'un vieux monsieur un peu chiant avec un chapeau horrible qui racontait aux petits-enfants de l'époque à l'Angleterre, grâce à son pouvoir à la fois de voyage dans le temps et dans l'espace, racontait un tout petit peu l'histoire de l'Angleterre. Ça avait une vertu pédagogique, évidemment, on était sur la BBC, très sérieux. Sauf que le sérieux était déjà un petit peu contredit par le générique que vous avez retrouvé, qui est celui d'origine, qui est la toute première musique totalement non-instrumentale, c'est-à-dire faite avec des appareils synthétiques, et qui donne quand même cet aspect un peu particulier à l'histoire
du Docteur Who. C'est bien psyché, déjà.
Alors, si je vous dis 878, vous me dites...
Épisode.
Ouais, épisode à ce jour, et ça n'est pas fini, puisque la 13e saison est en cours de diffusion chez nos amis britanniques, la 14e est déjà en production. C'est une série géniale parce qu'elle, d'abord, elle a évolué, hein, ça fait plus de 58 ans qu'elle est là, elle a connu une toute petite interruption, et ce personnage qui était un petit peu, voilà, souffreteux, sérieux, est devenu un personnage psychédélique, queer, drôle, avec énormément de références à la culture pop, à la culture de la série B, et c'est un véritable bonheur. Et comme d'habitude, alors, je peux vous parler de David Tennant, je peux vous parler de Matt Smith ou de Jodie Whittaker, puisque le docteur est enfin une docteur. Il leur a fallu 50 ans, mais au moins on y est. J'espère qu'ils vont tenir un tout petit peu cette merveilleuse idée des costumes kitsch que les Britanniques adorent s'arracher, se costumer, aller à Halloween à Londres un jour, on ne verrait que des docteurs ou dans la rue, et c'est un véritable bonheur. Mais l'idée formidable, c'est qu'il y a des méchants. Et évidemment, citons Hitchcock, plus le méchant est réussi, plus évidemment la série est agréable. Et j'ai pour les méchants du Docteur Who, en particulier les Daleks. Alors les Daleks, c'est une espèce de coquetier à l'envers avec un batteur à œuvre d'un côté et un rayon laser de l'autre, et qui passe son temps à dire « Exterminate, exterminate ». Oui, c'est la seule, unique ligne de dialogue variée néanmoins pour un épisode spécial pack où il devait « Egg-sterminate ». Parce que les Anglais savent rire, et le Docteur Who en particulier. Voilà,
c'est humour britannique.
Et j'ai pour les Whippy Angel, qui est dernière création, autant les Daleks datent à peu près de l'époque d'origine, les Weeping Angels, ce sont des créatures, des statues de cathédrales, et dès que vous clignez des yeux, ils se rapprochent de vous jusqu'à vous dévorer. Et je peux vous dire que je n'ai pas dormi, pourtant mon âge est avancé, pendant toute une semaine à la suite de du diffusion de cet épisode il y a une dizaine d'années. Donc voilà, Doctor Who, c'est génial, embarqué dans le TARDIS, et vous verrez, voilà, en 878 vidéos, vous avez le temps, effectivement, de rester sous la couette, peut-être de la laver une ou deux fois.
Mais je précise que vous n'êtes pas né en 1963.
Non, c'est gentil, 3 ans après, donc allez-y, puisque on en est dans l'état civil embarrassant.
Où est-ce qu'on peut voir Doctor Who ?
Alors, les nouvelles saisons, entre guillemets, hein, puisque ça a été relancé en 2005, sont visibles sur France 4.
Marianne Lévy, une série que j'adore, qui me rend heureux, c'est La Fabuleuse Madame Maisel, disponible sur Amazon Prime, créée par Amy Sherman-Palladino avec Rachel Brosnahan et Tony Shalhoub. 3 saisons absolument étincelantes, hein, Marianne Lévy.
Oui, étincelante, réjouissante. Moi, j'ai adoré suivre les aventures de cette Madame Maisel, qui est quand même à l'origine une jeune femme qui est une Jewish princess de Park Avenue, et qui a été un peu élevée pour être la femme au foyer parfaite, et elle aime tellement son mari qu'elle est prête à réaliser son rêve, et le rêve de son mari, c'est d'être un king du stand-up. Le problème, c'est que le mari en question n'est pas du tout drôle,
il est nul,
et que, il est pathétiquement pas drôle, ce qui est un problème quand on veut faire rire les gens, et du coup à la faveur d'un quiproquo, c'est elle monte sur scène, et là elle se révèle, et elle a un talent pour la comédie innée, et elle commence comme ça à raconter son quotidien de femme au foyer. Elle lâche tout, elle donne tout, et c'est ultra drôle, c'est pas très étonnant, parce qu'en fait le duo de créateurs derrière Gilmore Girls, derrière Mrs. Maisel, c'est Amy Sherman Palladino et son mari, et c'est les mêmes créateurs de Gilmore Girls, et on retrouve exactement les mêmes qualités. C'est joyeux, c'est barré, c'est super bien écrit, ça, les dialogues fusent, et j'ai adoré aussi cette série parce que voilà, elle se passe à New York dans les années 60, c'est ultra pop, ultra bien produit, et puis en même temps il y a du fond, parce que ce que ça raconte, c'est l'émancipation de Myriam, et du coup c'est un miroir de ce qui s'est passé dans les années 60 aux États-Unis. Et puis surtout, ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Le sujet, c'est la comédie. Et c'est vraiment un hommage à la comédie. D'ailleurs, ça met en scène un personnage qui a vraiment existé. Donc, ce n'est pas un personnage, qui a vraiment existé. Le comédien Lenny Bruce, qui est le mentor de Myriam Maisel. Et ce que ça raconte, là, cette convocation de Lenny Bruce, c'est le pouvoir de la comédie et sa faculté à faire bouger les choses dans la société. Donc vraiment, Mrs. Maisel sans modération.
La Fabuleuse Madame Maisel, disponible sur Amazon Prime. Guillemette Odissino, un mot sur une autre série d'Amy Sherman-Palladino, Gilmore Girls, que Marine Lévy vient de citer. C'est une série disponible sur Netflix. C'est une comédie familiale et romantique qui a été diffusée entre 2000 et 2007, c'est ça ?
Oui, absolument. Alors c'est une comédie familiale. C'est une comédie matriarcale plutôt, puisque c'est l'histoire de Lorelai et de sa fille Rory dans une petite ville inventée des États-Unis qui a un joli nom qui s'appelle Stars Hollow, le creux des étoiles, et c'est juste ça, c'est la complicité absolue, délicieuse, rieuse, et aussi ambitieuse entre une mère, une très jeune mère puisqu'elle a eu sa fille à 16 ans, et sa fille adolescente. Et c'est non seulement drôle, charmant, pimpant. Il y a une petite communauté autour avec des seconds rôles, dont une copine incarnée par Melissa McCarthy. Vous savez, cette actrice qui est devenue une bombe d'humour à Hollywood. Et en fait, ce qui est vraiment... Quand on commence, on se dit, tiens, une petite comédie familiale. Et puis, plus on écoute les dialogues, et plus on se dit, mais c'est référencé tout le temps. Ça peut tout d'un coup citer Nietzsche, Dostoïevski, du cinéma américain, Billy Wilder, Frank Capra. En fait, c'est très finement écrit et c'est absolument délicieux à regarder entre mère et fille, absolument.
Gilmore Girls, disponible sur Netflix. Alors Julien Bisson, vous me faites plaisir avec le choix de Seinfeld, série comique des années 90, créée par Jerry Seinfeld et Larry David. L'argument, une série qui ne parle de rien. 32 ans après sa première diffusion, c'est toujours aussi drôle. Et je cite Lelo Jimmy Battista dans Libération, chef-d'œuvre d'écriture, sommet d'absurdité acide, hôtel à la gloire de la lâcheté, de la pingrerie et de l'ignominie ordinaire.
Eh bien, on a presque tout dit, mon cher Ali. Une série sur rien, en effet, rien d'autre que la banalité du quotidien montée en épingle jusqu'à l'absurde et saupoudrée de mauvais esprits. Alors, c'est l'histoire d'un quatuor, avec d'abord Jerry Seinfeld, qui était alors quasi débutant et qui joue son propre rôle, celui d'un comédien new-yorkais, habitué des clubs de stand-up, entouré de ses amis les plus proches, son ex-petite amie Hélène, qui est une éditrice, intelligente, progressiste, mais aussi irascible, narcissique, déboussolée par ses aventures romantiques. Kramer, formidable Kramer, le voisin de palier, un zébulon loufoque à la coiffure et aux chemises improbables, une sorte de grand enfant qui dit toujours ce qu'il pense et qui fait toujours ce qu'il dit, surtout si c'est complètement farfelu. Et George Costanza, l'ami d'enfance de Jerry, un gaffeur magnifique, une pelote de complexes et de défauts entremêlés que rien ne vient sauver, le genre de type à asséner sans ciller. C'est pas un mensonge si t'y crois. Tout ce petit monde squatte la plupart du temps le salon de Jerry, qui est une figure un peu placide, qui semble surnager au-dessus du chaos, mais en réalité dont la personnalité effacée cache l'immaturité, la maniaquerie et la goujaterie. Bref, pour faire plaisir à Xavier et à Hitchcock, il n'y a quasiment que des méchants dans cette série. Alors vous allez me dire, comment expliquer le succès d'une série aussi banale, aussi sombre, aussi cynique sur l'état du monde? Eh bien sans doute parce que Seinfeld, ça nous réconcilie avec nos propres bassesses. Nous sommes tous en notre fort intérieur, aussi égoïste que Jerry, aussi lâche que George,
pas moi,
aussi superficiel que
Jerry,
aussi détraqué que Kramer.
On a négocié.
Nous aussi, on lutte pour ne rien céder à nos bas instincts, pour ne pas agir comme ce diable de Costanza, prêt à marcher sur femmes et enfants pour échapper à un incendie. Seinfeld, c'est Bouvard et Pécuchet à Manhattan, c'est affreux, sale et méchant dans l'Upper West Side, un concentré de mauvaise foi, de cruauté et de drôlerie, alors totalement inédit à la télévision, et qui se joue aussi de tout ce que d'habitude la société drape d'un voile pudique, comme cet épisode culte où les quatre amis parient pour savoir qui pourra tenir le plus longtemps sans se masturber, sans d'ailleurs jamais prononcer le mot. À sa sortie en France dans les années 90, c'était mal doublé, programmé sur le câble, ça n'avait pas beaucoup marché. Heureusement, c'est disponible depuis quelques semaines sur Netflix, donc yada yada yada. Que courir pour découvrir Seinfeld.
Et c'est disponible aussi en DVD, Grégory Cohen.
Ah non, mais j'adore, c'est l'humour juif new-yorkais, c'est vraiment, c'est acide, c'est quand elle rentre dans la douche et qu'elle voit, qu'elle découvre le sexe du pauvre type qui est en train de se doucher, il lui explique qu'en fait la douche est très froide, c'est pour ça. Et elle peut pas le croire et elle part.
Xavier Harper, pourquoi avoir choisi Sex Education, une série cul cru et pas cul, selon Sébastien Mange dans Télérama?
Bah, si vous l'aviez vu, vous ne poseriez même pas la question. La question est très mal rédigée parce que ça prouve votre ignorance de cette excellente série. Voilà, disons les choses, écrites par Laurie Nunn, une femme, je vous disais que les femmes, voilà, que les séries sont inclusives plus que jamais, tant mieux. Et qui, alors j'en veux beaucoup à mes parents, évidemment, puisque rétrospectivement, j'apprends qu'ils ne m'ont pas envoyé dans ce lycée qui s'appelle le lycée du sexe. Et évidemment, j'aurais tellement adoré faire ma scolarité dans ce lycée du sexe plutôt que Victor Nuri dans le 7e, avec les mocassins à glands. Mais c'est un autre projet, je n'en parlerai pas aujourd'hui, bien évidemment.
Il y avait quand même des glands.
Il y avait quand même des glands, voilà. Mais il y avait les cons surtout. Alors, trois saisons absolument formidables qui partent d'un postulat très simple, un jeune garçon qui n'arrive pas à se masturber. Alors, on parlait des séries qui déculpabilisent, ben voilà, effectivement. Le problème, c'est qu'en plus, il vit avec une sexologue réputée. Donc, voilà, il y a un vrai souci. Maman, visiblement, est très à l'aise avec cela, et lui, pas du tout. Et il décide d'utiliser les conseils qu'il entend de sa mère au lycée pour essayer justement de raccommoder les gamins un peu abîmés et de les réconcilier avec leur sexualité au pluriel. Parce que c'est ça aussi, Sex Education. C'est une grande série sur la sexualité ado, sur la manière de se chercher, sur la manière de faire la paix avec soi-même. Tout va bien. On peut être hétéro, on peut être gay, on peut être les deux. On peut vouloir mettre les costumes quand on fait l'amour. On peut avoir des problèmes d'érection. On peut avoir des problèmes d'éjaculation précoce. On peut avoir tous les problèmes, sauf que c'est embrassé dans un humour, dans une justesse de ton, dans une intelligence. Les comédiens sont britanniques. Bon, bref, vraiment. Sauf la très britannique américaine Gillian Anderson. Alors, j'ai envoyé les voix célestes quand on dit le nom de cette immense comédienne de scène, de télévision et de cinéma qui est absolument génial. Trois saisons très différentes. En plus, le bon truc, c'est de pas étirer le filon, si je peux me permettre, hein. C'est une chose pareille par rapport au sujet. Et donc, c'est sous la couette avec ses enfants.
En famille ?
Ah ben oui, en famille, en vivant. Et puis une fois qu'on a été un peu illoustillé, ben on envoie les enfants ailleurs et on reste sous la couette avec alors, son chéri ou sa chérie.
La mère des sœurs Berthollet, qui est aussi la manageuse du duo, approuve derrière. On peut regarder ça en famille, donc c'est formidable.
Ah, on l'a regardé ensemble.
Ah, mais très bien. Ben
voilà, c'est exactement ce qu'on disait. C'est tellement bien écrit en plus.
Sex Education à regarder donc en famille sur Netflix. Alors Julie Berthollet, là on entend un extrait de votre album, hein, c'est
absolument,
ça
oui, je reconnais, je déteste m'écouter, ça me stresse de ouf.
Et donc la série réconfortante à déguster avec des scones, c'est donc Downton Abbey.
Ah oui, j'en veux bien. Hein oui, oui, je veux à des scones, je dis oui, Downton Abbey, je dis oui, en VO évidemment, c'est
pourquoi
ultra cocoon. Bah, alors
c'est déjà... la série, une série britannique de Julian Fellowes, oui. 6 saisons diffusées entre 2010 et 2015.
Bah, il y a le côté historique qui est génial, mais c'est tout ça est drapé dans une histoire familiale, donc on se met à aimer, détester les personnages, ils prennent énormément d'ampleur au fur et à mesure des saisons. Il y a l'accent qui est merveilleux, ouais. Et puis c'est le début de l'émancipation des femmes de la famille, surtout vers la fin de la série, et ça, c'est, ça fait vraiment du bien à regarder, je trouve.
Et vous, Camille, la série Doudou en ce moment, c'est quoi?
Moi, j'ai beaucoup aimé Bridgerton, ouais. Et j'attends avec impatience la prochaine.
Ça raconte quoi en deux mots pour ceux qui ne l'ont pas vu?
Comment résumer Bridgerton en deux mots?
C'est une série historique, bah,
un peu voilà, exactement, on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas si on revient en arrière au temps des rois, des reines, ou si c'est actuel, mais pour une fois, c'est inclusif et ça fait du bien.
Ouais, malheureusement, l'acteur principal ne sera pas dans la prochaine saison.
Oui, c'est nul.
C'est bien James Bond.
Il sera peut-être James Bond. Peut-être.
Oui, oui, Bridgerton, c'est vraiment... les chroniques de Bridgerton, c'est vraiment incroyable. C'est censé être dans l'Angleterre victorienne, mais alors c'est plutôt la victoire de la pop, de l'inclusion. C'est complètement fou, c'est extrêmement coloré.
Et produit par la plus grande showrunneuse du moment.
Et produit par la plus grande showrunneuse.
Shonda Rhimes.
Encore une femme, et tant mieux.
À qui allez, un scandale. Il est temps de retrouver la chronique philo d'Aïda Ndiaye.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Aïda Ndiaye, une chronique philo en clin d'œil à notre ami Thibaut de Saint-Maurice, père d'un quatrième enfant depuis hier soir.
Et oui, je n'allais pas rater cette occasion de vous proposer une petite philosophie du prénom. Donc, bien sûr, le choix du prénom est l'une des premières questions que l'on se pose à l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Et alors, en la matière, tout le monde n'adopte pas la même stratégie. Il y a celles et ceux pour qui c'est un secret défense, d'autres qui acceptent quand même de livrer quelques indices, et les parents qui jouent la totale transparence et prenant parfois d'ailleurs le risque de s'exposer à des « ah, d'accord » gênés à l'annonce du prénom choisi. Mais quand on y pense, quelle tâche quand même, quelle responsabilité que de nommer un nouvel être.
Regarde Margot, t'as un petit copain là.
Oh génial.
Il s'appelle comment, Louchou?
L'enfant.
L'enfant.
Non mais le prénom.
Non. Non.
C'est... Ouais. Il a pas de prénom?
Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah. Parce que si tu regardes bien, le prénom c'est le premier fichage en fait. Moi j'ai envie qu'il le choisisse son nom. Mm-hmm. C'est sa vie, il m'appartient pas. Parce que tout le monde a un nom, il faut juste le rencontrer, il faut être attentif, il faut s'autoriser à rêver.
Alors vous aurez peut-être connu Blanche Gardin dans cet extrait du film Problemos, et on pourrait se dire en effet que l'idéal serait de pouvoir s'auto-baptiser. C'est ce que fait d'ailleurs Édouard Louis, dont le dernier ouvrage « Changer méthode » nous raconte comment son changement d'état civil, dédié belle gueule à Édouard Louis, a été l'acte final de sa renaissance. Et le prénom semble bien ici assigner l'individu à une certaine identité et en l'occurrence à un destin social.
Alors de quoi le prénom est-il le nom? Ne fait-il que renvoyer à une histoire individuelle et privée?
Alors pour ma part, je m'appelle Aïda, enchantée.
Enchantée.
Et en général, on me demande si mon prénom est un hommage à l'opéra de Verdi. Eh bien non, pas du tout. Je porte le prénom d'une sœur de mon père. Je porte donc, en partie, à travers lui, l'histoire de mon père, né au Sénégal, et qui quitta brutalement son pays et sa famille pour suivre ma mère en France et finir par devenir lui-même français. Je ne pense pourtant pas que le choix du prénom constitue une revendication ni une assignation identitaire. Au contraire, cela nous en dit sans doute autant sur la société que sur les individus. Dans une vaste enquête sociologique qui est parue cette année, les preuves de la discrimination, on voit ainsi comment les parents choisissent parfois un prénom qui passe bien dans la société pour invisibiliser l'origine de leur enfant. Les noms ne sont donc pas de simples étiquettes posées sur les choses, comme le disait Blanche Gardin, et avant elle le philosophe Bergson, qui parle en ces termes des noms communs, chaise, arbre, chameau, pure convention qui ne disent rien du réel, généralité qui ne servent qu'à communiquer et que seuls les poètes savent faire chanter, Mais ce qui vaut pour le langage courant ne vaut pas pour le nom propre qui a, lui, toujours une puissance évocatrice. Fatoumata, Mehdi, Serge ou tout simplement Marie, le prénom désigne un être absolument unique et chargé d'un imaginaire intime autant que collectif. Car c'est d'abord cela la puissance d'un prénom, sa capacité à résonner de mille nuances fugitives et profondes, comme le dit Bergson, et comment démêler les échos en nous entre le prénom d'une grand-mère, celui d'une héroïne de roman, d'une artiste ou d'une grande figure de l'histoire. En baptisant un enfant, nous nous faisons donc tous poètes, tous romanciers, nous rêvons sa vie future, une vie qui ne soit justement pas limitée par son origine sociale ni son appartenance culturelle, une vie qui s'inscrive dans une histoire mais puisse aussi s'en détacher, une vie d'ici mais peut-être aussi d'ailleurs, en un mot, une vie libre aux multiples possibles.
Ça fait du bien d'entendre cela, Aïdan Diaye, et on peut retrouver votre chronique philo en podcast. Allez, après les nourritures spirituelles, les nourritures terrestres de Grégory Cohen. Grégory Cohen, quel est le menu pour ce week-end ?
Bon, alors, derrière les prénoms sans transition, j'ai adoré cette chronique. Elle est vraiment bien, surtout qu'elle fait écho à pas mal de sujets d'actualité en ce moment sur les prénoms. Bah là, on va partir sur des endives au jambon.
On va partir.
Jambon.
Vous croyez dans Top Chef, là ? On va partir.
Ah, écoutez, oui, on va. J'ai essayé de tout à l'heure de dire de mash-up. J'ai vu un petit moment de solitude dans votre regard. Donc là, j'essaie de ramener un petit peu sur
mash-up. Là, il y a du courrier à la médiatrice. Là,
du mash-up. Mash-up, c'est un terme musical. On peut
tout
le dire.
Ah bah oui, on fait des mash-up. On aime les mash-up.
Voilà. C'est un beau mot pour dire purée, quoi.
On peut aussi dire purée comme ça. Alors, il nous faut 4 endives. Alors, une astuce pour trouver les endives, pour bien choisir ces endives. Il faut que les feuilles soient bien refermées, les pointes de couleur jaune. S'il y a du vert sur les pointes, c'est signe qu'elles vont être très très amères et donc qu'elles sont un peu passées. Il nous faudra 4 tranches de jambon de Paris qui s'appelle aussi le jambon blanc, même si souvent il est très rose, et ça c'est pas bien.
Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sel nitrité.
Exactement, le sel nitrité en fait c'est ce qui va donner cette couleur rose. Alors malheureusement on a l'impression que plus c'est rose, plus c'est appétant. Le tarama rose, le jambon rose, et en fait c'est absolument pas naturel, le jambon devrait être blanc.
Il y en a maintenant du jambon sans nitrite.
On en trouve, c'est pour ça qu'il vaut mieux le privilégier. 100 grammes d'émental râpé, 75 centilitres de lait entier, 50 g de beurre, 50 g de farine. On va couper les pieds d'endives, on va les faire cuire 10 minutes à la poêle avec une noix de beurre à couvert, et on va les déglacer avec le jus de citron. On va laisser caraméliser 5 minutes supplémentaires, donc ça fait en total 15 minutes. Ça, c'est pour la recette de ma grand-mère. Ensuite, pour la béchamel, on fait fondre le beurre dans une casserole, on ajoute la farine, on remue bien jusqu'à obtenir un roux. On ajoute hors du feu le lait, on fouette. On préchauffe son four pendant ce temps-là à 200 degrés, on égoutte les endives, on remet la béchamel sur le feu, on fouette jusqu'à ce qu'elle épaississe, on sale, on poivre, ensuite on enroule les endives de jambon, pas facile à dire, on les dépose dans un plat à gratin, on recouvre le tout de béchamel, on parsème d'emmental râpé, on enfourne pendant 15 minutes jusqu'à ce que le dessus soit gratiné. J'ai un peu bafouillé sur cette heure.
Mais non, c'est pas grave du tout. Vous avez l'air peur. Est-ce que vous bavez, vous salivez?
Mais j'adore les endives. J'adore.
Racontez-nous votre passion pour les endives.
C'est un plat
jambon
très cinéphile. Parce que j'ai fait des recherches. Il est cité deux fois dans un film français. Dans La Cour de Pierre Salvadori. Oui. Catherine Deneuve s'essaye aux endives au jambon, visiblement sans succès. Et dans un film qui va sortir bientôt, le film de Jérôme Bonnel, Cher Léa. Grégory Montel les savoure chez Grégory Gadebois. Et elles ont l'air presque aussi bonnes que celles qui viennent d'être cuisinées.
Ça fait quel Grégory?
C'est un truc de Grégory, je crois, les endives.
Grégory
finalement.
Montel, Grégory Gadebois, Grégory Cohen.
T'as raison. Et vous pouvez retrouver la recette de Grégory Cohen sur son compte Instagram, Grégory Cohen off avec
deux F.
Et dans un instant, même tout de suite, on retrouve les sœurs Berthollet pour un final en musique.
Grand bien vous fasse, Ali Rébi, sur France Inter.
Et il est temps de terminer cette émission en musique avec Camille et Julie Berthollet qui sortent leur nouvel album série. Et vous allez nous interpréter Game of Thrones au violon et au violoncelle. On vous écoute avec plaisir. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Julie et Camille Berthollet. On peut découvrir votre nouvel album, Série. Et là, on vient évidemment d'écouter... Pardon ?
On a fait simple pour le titre.
Oui, tout simple. Et on vient donc d'écouter le thème de Game of Thrones. Et vous êtes en tournée partout en France, c'est ça ?
Oui, toujours, sinon on s'ennuie. Donc voilà, dans le train, on regarde des séries, après on va sur scène et on en joue.
Merci infiniment d'être venu ce matin. Toutes les recommandations sont à retrouver sur l'appli, le site de France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Tiens, si vous avez raté cette semaine l'émission consacrée au corbeau avec Michel Pastoureau et Agatha Livien Bazin, eh bien vous pouvez vous faire plaisir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin dans l'émission Bel et Bien sur France 2 avec Agathe Le Caron, Christophe André et Alain André Manoukian. Lundi dans Grand Bien Vous Fasse, comment rester zen dans un monde agité. Mais vous êtes toujours zen, vous avez l'air.
Non, toujours agité.
Toutes vos questions d'ores et déjà et témoignages en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.